Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Dans deux jours débutera la convention républicaine à Milwaukee dans le Wisconsin, un rendez-vous qui marque une étape importante dans la campagne pour la présidentielle américaine, deux semaines après le premier débat télévisé qui a opposé le président sortant à Donald Trump. La convention démocrate se tiendra, elle, dans la troisième semaine du mois d'août à Chicago. La convention républicaine qui débutera lundi officialisera la candidature de Donald Trump et sera l'occasion de faire connaître la plateforme du Parti républicain dont il est prévu qu'elle soit pour la première fois débattue à huis clos, sans la presse. Parmi les inconnus, la position du Parti républicain sur l'avortement, un sujet de campagne s'il en est. Chez les républicains, l'objectif est d'éviter tout drame ou controverse dans un contexte dans lequel l'équipe de campagne de Donald Trump est convaincue de la position favorable de son candidat. Pour cette édition, en partenariat avec la revue Questions internationales, nos invités, Elisabeth Zoller, professeure émérite de l'Université Paris 2 Panthéon Assas. Bonjour.
Bonjour.
Par téléphone, Patrick Allard, économiste, spécialiste de l'économie internationale, ancien haut fonctionnaire au ministère de l'économie et au ministère des Affaires étrangères. Bonjour.
Bonjour.
Et Serge Sûr, rédacteur en chef du dernier numéro de la revue Questions internationales consacrée aux États-Unis sous le titre États-Unis, le ressac de la puissance. Serge Sûr, qui est également membre de l'Institut au sein de l'Académie des sciences morales et politiques. Bonjour.
Bonjour.
Comment voyez-vous chacun cette campagne 2024? Votre regard sur les États-Unis, un pays divisé, profondément divisé, sociologiquement, culturellement, politiquement, économiquement, avec les clivages qui retentissent sur les institutions publiques, aussi bien entre les États fédérés qu'entre eux et l'État fédéral, comme au sein des diverses branches du gouvernement. Serge Sûr, je vous laisse ouvrir l'échange.
Oui, effectivement, je crois que les divisions internes des États-Unis sont très profondes et elles retentissent sur les partis politiques et particulièrement sur le Parti démocrate. Mais je crois que Elisabeth est beaucoup mieux placée que moi pour traiter de ces questions à la fois institutionnelles, politiques et je dirais presque morales.
Alors Elisabeth Zoller.
Les États-Unis ont toujours été un pays divisé. Ce n'est pas quelque chose de récent. Ils le sont d'abord par la structure même de l'État. Puisqu'ils sont, comme on dit en France, un État fédéral, mais le terme État est très mal choisi ici. Il faudrait mieux dire qu'ils sont une grande république fédérative de petites démocraties. Depuis les origines, ils n'ont jamais su où se situait le balancier. C'est-à-dire, est-ce qu'il se situe dans les États ou est-ce qu'il se situe dans l'Union ? Et ils sont sans arrêt. Toute leur vie politique est balancée. D'ailleurs, c'est pour cela que le clivage gauche-droite aux États-Unis est même subsumé sous le clivage encore plus important fédéral-fédéré. Est-ce qu'ils sont unis? Mais ils ne sont pas consolidés. Unis jusqu'à quel point? On n'en sait trop rien. La Constitution ne le dit pas, ne donne pas de réponse. Donc ça, c'est un point qu'il faut bien garder en tête. Appliqué à la situation politique actuelle, à l'élection présidentielle, le Parti républicain, en gros, et pour faire très vite, il penche plutôt pour mettre le balancier dans les États, alors que le Parti démocrate, au contraire, penche pour le mettre dans l'Union. Donc c'est un thème constant aux États-Unis. C'est un thème constant dont on pourrait retracer les origines historiques, bien sûr, qui remontent au protestantisme, puisque le protestant, par définition, c'est celui qui s'oppose, qui n'est pas d'accord avec l'ensemble. Mais, comme disait un Anglais célèbre, aux États-Unis, on a poussé le principe de la dissidence jusqu'à ses extrêmes. On pratique la dissidence de la dissidence, de fait que le protestantisme aux États-Unis explique beaucoup de choses.
Merci Elisabeth Zoller pour cet éclairage. Patrick Allard, cette campagne pour la présidentielle, elle s'inscrit dans un contexte économique qui est plutôt favorable à Joe Biden, dont le bilan est plutôt positif.
Oui, c'est certain et logiquement ça devrait jouer en faveur du candidat. On connaît la formule de Clinton lui-même au moment de sa première élection, et des économies stupides. Hein. C'est l'économie qui compte. Oui. Il est traditionnel que l'économie joue un rôle important dans le choix de l'électorat américain au moment des élections. Mais cette fois-ci, on a quelque chose de particulier parce que la division qui vient d'être évoquée, on la retrouve à un degré extraordinaire selon l'électorat. Il y a l'électorat républicain considère que l'économie va très mal, alors que l'électorat démocrate considère qu'elle va bien. Alors, la division, en fait, entre les deux électorats se retrouve aussi, en quelque sorte, à l'intérieur des électorats, à l'intérieur des électeurs même, puisque les électeurs républicains qui considèrent que l'économie va mal ont tendance, d'après les sondages qu'on a, d'après les indicateurs qu'on peut avoir sur ce que pensent les consommateurs qui sont interrogés, ils disent que l'économie générale va mal, mais que leur situation financière et économique, elle est bonne. Ils disent que l'économie américaine dans son ensemble va mal, mais que celle de leur État va bien. Donc il y a une espèce de division qui va jusqu'au sein, en quelque sorte, des électeurs. Mais le résultat est que, contrairement à ce qu'on peut attendre, puisque c'est vrai, comme vous l'avez dit, les résultats de Biden en termes de croissance, d'inflation, en termes de croissance économique, d'emploi, etc., sont bonnes, ça n'est pas du tout mis à son crédit par une grande partie de l'électorat qui récuse complètement ces données-là, qui considère que, ben non, malgré ce qu'on lit, malgré ce que dit le gouvernement, d'après ce que disent les institutions, en fait, c'est faux. La réalité, c'est que l'économie est dans un très mauvais état. Et donc, c'est une situation particulière où le président sortant ne tire pas partie de son bilan qui est bon.
Alors voilà, une économie mauvaise au regard des Républicains, on peut juste rappeler quelques petits éléments, et je parle sous votre contrôle, Patrick Allard, un taux de chômage historiquement faible, et puis un état général de l'économie américaine. Je vais rappeler juste le PIB moyen par habitant qui est aujourd'hui de $76,329, là aussi je suis toujours à parler sous votre contrôle, avec une progression de plus de 56% entre 2010 et 2022. Évidemment, l'Europe est loin derrière, Patrick Allard.
L'Europe est loin derrière et à la différence des États-Unis, l'Europe n'a pas retrouvé la tendance. C'est souvent ça qu'on regarde par rapport à celle qu'elle était avant le Covid. Le Covid a fait un choc, tout le monde a en tête, j'imagine, des statistiques, on voit le creux très marqué à l'occasion du Covid. Bah forcément, l'activité s'est arrêtée, tout simplement. On l'a aux États-Unis aussi, mais la croissance est repartie très rapidement. Et là, le niveau de croissance, le niveau de PIB, le niveau de consommation a retrouvé son niveau d'avant le Covid. Et la tendance de cette consommation, du PIB, etc., est la même qu'avant le Covid. Ce n'est pas le cas en Europe où il y a un choc et au contraire, il y a une divergence qui s'est établie. Et puis pour le futur, ils suggèrent encore que l'économie va bien. Aux États-Unis, ils ont connu comme ailleurs une stagnation de la productivité, mais qui a l'air de se résorber. On voit de nouveau une croissance de la productivité, ce qu'on ne constate vraiment pas en Europe, ni en Grande-Bretagne. Mmh. Vraiment, au contraire, la productivité continue à stagner. Donc la situation est bien meilleure en termes d'emploi, de croissance, etc., en termes de consommation, d'investissement aussi, surtout en matière de tout ce qui est modernité, software, etc. La situation est bien meilleure et les perspectives sont plutôt meilleures aussi. Alors, on va revenir là-dessus, mais je n'hésite pas à le dire maintenant. En partie, cette croissance, elle est nourrie aux États-Unis par l'immigration, une immigration massive qui fournit une main-d'œuvre employée dans les secteurs de toute nature où les emplois sont créés. Et c'est bien sûr ironique parce que, si j'ose dire, puisque bien évidemment, l'une des caractéristiques de Trump et de sa campagne, c'est quelque chose de violemment, sordidement, quelque part, anti-immigration.
Tout à fait. Alors, on aura l'occasion de reparler de l'aspect économique dans la plateforme républicaine. Mais puisque on est sur le sujet de l'immigration, Trump propose des mesures plus drastiques qu'en 2016. Il promet d'arrêter tous les sans-papiers estimés à plus de 12 millions, de les placer dans des camps de détention et d'organiser la plus grosse opération de déportation de l'histoire de l'Amérique, avec en plus la suppression du droit du sol pour les enfants nés de parents en situation illégale. On y reviendra. Serge Sura, à ce stade, vous souhaitez rajouter quelque chose ou je vois avec Elisabeth Zeller son regard sur la candidature de Donald Trump.
Je parlerai plutôt de la politique étrangère.
De la politique étrangère. Et en quoi les prochaines élections, Elisabeth Zeller, vont être un test pour les institutions américaines ?
Elles seront un test, pas plus que les élections antérieures l'ont été.
Alors, tout
le système, vous voulez me demander si le système va s'effondrer
Je ne sais pas, mais pour nos auditeurs, on peut juste rappeler que la candidature de Trump s'inscrit dans un contexte judiciaire.
Ah, bon, si c'est le contexte judiciaire, alors là, son problème est de savoir est-ce que toutes les casseroles judiciaires que Trump traîne après lui vont pouvoir l'empêcher de remporter la victoire. Il est impossible de répondre à cette question puisque la Cour suprême a dit récemment il est urgent d'attendre. Je simplifie son
jugement.
Vous la comprenez tout à fait. Moi, personnellement, en tant que juriste, je comprends tout à fait qu'elle ait dit il est urgent d'attendre.
Ils ne veulent pas empêcher un candidat.
Non,
ils ne veulent pas prendre...
Je parle du jugement, je parle de l'affaire United States versus Trump, qui a été jugé il y a quelques jours, dans lequel la Cour a dit qu'elle ne se prononçait pas sur le fait de savoir si ces procédures judiciaires pouvaient vicier sa candidature.
C'est cela.
Mais ce qu'elle a fait, elle n'a pas dit qu'il était immune, qu'il était immunisé de toute poursuite judiciaire. Elle a dit qu'elle a renvoyé, en termes techniques, elle a renvoyé à la Cour de district le jugement des faits. Parce que la Cour, alors c'est un tout petit point technique, mais enfin qu'il faut quand même dire aux auditeurs, la Cour est juge du droit, elle n'est pas juge du fait. Or, toutes les affaires qui traînent après Trump sont toutes des affaires de fait, des affaires qui touchent à des événements qui se sont passés, comme l'attaque du 6 janvier
2021.
Oui, 2021, absolument.
Avec le refus de s'incliner devant le résultat de l'élection de novembre précédent.
Et il s'agit de savoir, pour savoir si Trump est à l'abri de toute conséquence juridique du chef de ses poursuites, il s'agit de savoir si son immunité absolue, comme il le prétend, est vraie ou non. La Cour a dit, moi, je ne me prononce pas là-dessus. Je veux savoir d'abord si les faits sont ou non liés à la fonction. Parce que je ne reconnais une immunité absolue que lorsque les faits qui sont reprochés au prévenu sont liés à sa fonction. Donc, il s'agit de savoir si, concrètement, lorsque Trump a procédé à ces émeutes là a déclenché disons ces émeutes du 6 janvier, est-ce qu'il était toujours dans l'exercice de ses fonctions officielles ou est-ce que ça pouvait se rattacher à l'exercice de ses fonctions ou bien en étant complètement étrangère. Donc on peut débattre là-dessus et la Cour a dit que la Cour de district se prononce.
Le 6 janvier, c'était tout de même avant le 20 janvier, pardon pour la palissade.
Vous avez tout à fait raison. Il était toujours en fonction, bien sûr. C'est le point décisif. Il était toujours en fonction.
Est-ce qu'elle n'a pas parlé d'une présomption d'immunité ?
Tout à fait, Serge, tu as raison. Elle a parlé d'une présomption d'immunité. Mais la présomption, iuris tantum. On la renverse par la preuve contraire. Donc, c'est au juge du fait, c'est au la cour de district, au petit juge, là, de s'en occuper.
Bon, affaire à suivre.
Affaire à suivre, exactement. Il est impossible de répondre.
C'est
très habile. Et elle a bien fait de se retirer. D'ailleurs, on le comprend. Quand il y a des questions difficiles, des questions juridiques difficiles, vous savez, en France, on est là, on dit le juge, bah, il va tout résoudre. Mais les juges... ils sont prudents. Ils ne vont pas se prononcer sur des éléments dont ils savent pertinemment que ça peut être contesté. Et les éléments de fait peuvent toujours être contestés.
Disons qu'en France, le Conseil constitutionnel n'est pas toujours aussi prudent.
Mais pour en revenir au Congrès, à la Cour suprême, Elisabeth Zeller, est-ce que la couleur politique des juges à la Cour suprême n'a pas joué aussi dans cette décision. Pour rappeler que c'est une cour qui est plutôt favorable. En tout cas, il y a des juges qui ont été nommés par Donald Trump lorsqu'il était président des États-Unis. Une cour suprême qui est plutôt favorable aux républicains.
Mais la cour suprême n'est jamais neutre dans ce système-là. Elle ne peut pas l'être, puisque le système lui-même est instable. Donc, si vous prenez un côté ou un autre, vous êtes nécessairement partial. Et je vous ai dit au départ que le système était fondamentalement instable. Mais les États-Unis ont dit « ça fait rien, on fait comme ça, on fait comme si ». Il faut que ça tienne. Donc les Américains d'ailleurs eux-mêmes savent très bien qu'ils ont une constitution qui ne peut être mise en œuvre, qui ne peut être appliquée que par eux-mêmes. C'est exactement ce que Tocqueville dit dans « La démocratie en Amérique » quand il dit « Oh, c'est une magnifique machine, mais il n'y a au fond que les Américains qui savent la faire tourner ». C'est exactement ça que ça veut dire. Voilà, et seuls, ils peuvent, et ils le savent, et ils peuvent le faire parce qu'ils ont cet esprit de tolérance, cet esprit de on se supporte les uns les autres, cette culture du compromis qu'on cherche tellement en France, qui est fondamentalement le grand héritage du protestantisme. Les protestants nous ont appris à être tolérants les uns vis-à-vis des autres. À l'inverse, bien sûr, des catholiques pour qui il n'y a qu'une vérité.
Il nous reste 3 minutes 30 avant la fin de cette première partie d'émission, mais merci parce que c'était tout à fait intéressant. Bon, évidemment, se pose ou peut se poser la question de savoir si une bonne politique peut se faire sans qualité morale, mais ça, c'est pas à moi de juger, je pose juste la question. Qu'est-ce que l'on sait ? Je rappelle donc que la convention républicaine démarre lundi à Milwaukee dans le Wisconsin. Patrick Allard, qu'est-ce que l'on sait de la plateforme républicaine sur le plan économique ?
Entre la plateforme républicaine et puis ce que fera le président, il y a toujours, et l'administration plus généralement, il y a toujours un écart considérable, puisque le Congrès aux États-Unis a beaucoup à dire en matière de politique économique, puisqu'il faut que l'administration obtienne un consensus d'un parti qui est divisé, enfin d'un Congrès qui sera divisé. Entre démocrates et républicains, et à l'intérieur des partis, ce n'est pas un bloc. Il y a toujours énormément de divisions, donc beaucoup de compromis à réaliser. Et puis les cordons de la bourse sont tenus par le Congrès. Les capacités de dépenses de l'administration sont totalement encadrées par ce que décide le Congrès, qui peut avoir des idées très différentes de celles de l'administration, qui peut même imposer ses priorités. C'est la différence avec notre régime à nous, où le Parlement peut refuser, mais ne peut pas inventer une politique économique différente de celle que le gouvernement souhaite. Donc on a vraiment là une multiplicité d'acteurs, et une multiplicité de résultats indépendamment de ce qu'aura décidé la Convention. Alors maintenant, pour dire un mot de ce qu'on connaît, de ce que peut être effectivement la plateforme et puis de ce que sont les idées de Trump, il me semble qu'on est quand même assez dans le vague actuellement. Alors Trump a été assez précis et répété un certain nombre de points. Donc on n'a pas quelque chose de complet, on a quelque chose de partiel. Alors on a un thème important qui concerne clairement les impôts. Il y a toute une série de mesures fiscales d'allègement d'impôts, en particulier sur les riches, qui avaient été décidées lors du premier terme de Trump et qui tombent à la fin de l'année 25. Donc il faudra, si Trump est réélu, clairement les renouveler et il est probable qu'il le fera. Donc ça, c'est un premier point et on s'attend donc à quelque chose qui aura des conséquences. Il faudra revenir là-dessus, sur le reste du monde, à travers les phénomènes d'endettement que ça pourrait engendrer aux États-Unis. Donc ça, c'est un premier point, la fiscalité, parce qu'il faut s'attendre à ce que ces baisses d'impôts ne soient pas financées, mais soient, aient besoin d'être couvertes par un déficit plus important et donc par l'endettement. La deuxième chose qui compte aussi, c'est une politique de dérégulation. Trump et le parti républicain dans son ensemble ne croient guère au changement climatique, et en tout cas ne croit guère aux mesures qui sont préconisées ici et là pour y remédier. Donc on va plutôt aller vers de la dérégulation.
Alors, je vous interromps, Patrick Allard, pour laisser la place au journal. Et on redémarrera avec vous la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve avec Elisabeth Zoller et Serge Sure après le journal. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Pour cette édition en partenariat avec la revue Questions internationales, nous retrouvons nos invités Elisabeth Zoller, professeure émérite de l'université Paris 2 Panthéon Assas, Patrick Allard, économiste, spécialiste d'économie internationale, et Serge Sûr, rédacteur en chef du dernier numéro de la revue Questions internationales consacré aux États-Unis sous le titre États-Unis, le ressac de la puissance. Patrick Allard, je vous ai interrompu. On évoquait les aspects économiques de la plateforme républicaine. Je rappelle donc que la convention républicaine démarre lundi à Milwaukee, dans le Wisconsin. On parle bien sûr de la campagne pour l'élection présidentielle américaine. Vous évoquiez deux points, fiscalité pour commencer et politique de dérégulation, les républicains n'étant pas convaincus du changement climatique.
Et n'étant pas non plus convaincus du type de régulation que les démocrates mettent en avant, en particulier une régulation par les agences, qui sont multiples aux États-Unis comme ailleurs, et qui souvent, la critique est souvent faite, remplissent leur mission en remplissant également les blancs que les législations qui leur donnent leur raison d'être, hein, leur capacité à agir, les blancs que donc cette législation ont souvent laissés. Et donc il vient d'avoir, j'empiète légèrement sur le terrain d'Elisabeth là, mais il y a une décision récente de la Cour suprême qui manifestement vise à limiter les capacités interprétatives et créatives des agences dans les situations où la loi émanant du Congrès, donc, hein, qui leur donne mandat, serait trop vague. Donc il y a ce premier point, donc on peut s'attendre à beaucoup de retours en arrière d'agences. Alors d'autant plus que Trump, par ailleurs, a annoncé qu'il avait l'intention de procéder à un grand nettoyage et les nominations de nouvelles personnalités à la tête des agences. Donc on peut s'attendre à quelque chose de ce point de vue. Mmh. Et puis il y a deux autres points que je voudrais évoquer. Il y a le point de l'immigration sur lequel j'ai dit un mot tout à l'heure et qui est important puisque l'une des bases du programme républicain et celui de Trump en particulier, c'est une attitude anti-immigration. Mmh. Et c'est quelque chose d'étonnant, ça se comprend par des raisons sociopolitiques propres à la société américaine, propres à vrai dire pas tant que ça, mais enfin, qui aux États-Unis ont des caractéristiques particulières et qui va vraiment à l'encontre de ce qui s'est produit, à savoir la montée générale de l'immigration au cours des dernières années. Et puis, il y a un dernier point de politique qu'on doit évoquer, c'est qu'il s'est dit dans son premier mandat « tariff man », c'est-à-dire quelqu'un qui compte, il croit beaucoup au rôle des tarifs douaniers dans la politique. Non seulement il a évoqué la possibilité de poursuivre la guerre avec la Chine, la guerre commerciale avec la Chine qu'il avait commencé dans son premier mandat, en portant les taxes sur les produits chinois à un niveau très élevé, 60%, c'est quelque chose, donc pratiquement en bloquant l'entrée des produits chinois sur le marché américain, et vis-à-vis des autres pays, en flanquant des taxes également importantes, il a parlé de 10%, mais ça pourrait être autre chose. Et un dernier point qui est quand même très significatif, il a évoqué, en public, hein, lors d'une convention avec des donateurs, il a évoqué la possibilité de supprimer l'impôt sur le revenu au niveau fédéral et de le remplacer par des droits de douane. C'est peu réaliste, mais ça dit quand même bien à quel point il est, de ce point de vue-là, révolutionnaire, si on veut, ou réactionnaire. Parce que si ça se faisait, c'est le retour à une pratique qui est celle du 19e siècle. Effectivement, à l'origine, les ressources, dans toute une partie de l'histoire américaine, les ressources du gouvernement, du US government, étaient principalement les taxes à l'importation. Donc voilà, c'est un programme quand même très, très contrasté, très, très marqué, très réactionnaire.
Et dont je rappelle qu'il sera discuté à huis clos dans le cadre de cette convention républicaine. Et ça, c'est une première, donc huis clos, c'est-à-dire que la presse sera exclue de tous les débats. Elisabeth Zoller, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Patrick Allard sur la question du grand nettoyage. Et j'ai aussi ces questions. Alors, il y a la question qu'on n'a pas abordée, c'est pas économique, mais c'est sociétale, la question de l'avortement qui va être importante.
Oui, bien sûr, mais le plus important que Patrick a souligné, sur lequel je voudrais rebondir, parce que c'est vraiment un point fondamental, et il a parfaitement raison, la reprise en main du gouvernement fédéral par un parti est, on peut dire, la colonne vertébrale de la plateforme républicaine. Le gouvernement américain a cette spécificité d'être un gouvernement éclaté. éclatée en une multitude d'agences. Patrick en a parlé, et ça me paraît vraiment être un point essentiel. Ce qui fait que vous n'avez pas d'unité d'action. Chacun a sa politique, d'autant plus que ces agences, pour des raisons juridiques, des raisons constitutionnelles, sont pour beaucoup d'entre elles des agences indépendantes. Aux États-Unis, ici encore, je vais très vite, mais l'idée fondamentale est que dès que l'administration se prononce, une agence se prononce sur une situation individuelle, elle doit être indépendante. Autrement dit, le pouvoir politique ne doit avoir aucune incidence sur son fonctionnement. Ce qui fait que vous avez un millier, je n'exagère pas, un millier d'agences qui gravitent autour de la présidence. Les Américains, d'ailleurs, les juristes administrativistes s'en moquent en parlant d'une soupe alphabet, parce qu'ils sont toutes désignées par des acronymes, et que sur ces agences, on n'a absolument aucun contrôle. Le Parti républicain, mais ça, ce n'est pas du tout récent. Ça remonte aux années 80, ça remonte à la présidence Reagan, absolument, avait mis en première ligne de son programme politique, ce que les théoriciens constitutionnalistes appelaient la théorie de l'exécutif unitaire. C'est-à-dire, comme le dit, un unitary executive, c'est-à-dire un seul exécutif, un seul responsable qui est le président. Et le président a la légitimité parce qu'il est élu. Donc il fallait que tout remonte au président. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Mais évidemment, quand les démocrates ont repris le pouvoir, alors le seul domaine dans lequel, et Patrick Allard l'a très bien expliqué dans un article justement de la Questions internationales, c'est en matière internationale que ça marche, en matière militaire, en matière de renseignement, en matière externe. Là, ça marche. Mais dès que vous êtes en dehors de cela, dès que vous êtes dans la politique intérieure, c'est complètement éclaté. C'est d'un côté la consommation, de l'autre les libertés publiques, la régulation des médias. Il n'y a absolument aucune unité d'action.
Donc un grand bazar à venir. Si jamais Donald Trump est élu.
Aux États-Unis, il n'y a pas de gouvernement, il y a des administrations.
Exactement.
Alors, la question, parce que je voudrais juste, et après ça, je vais vous passer la parole, Serge Sûr, désolé. Mais donc, les agences, c'est une chose. Il y a aussi les ministères. Donc, on l'a compris. Si Trump est élu président, c'est la grosse revanche. Grand nettoyage, grosse revanche.
Alors, vous voulez pas.
Avec aussi le contrôle du ministère de la justice qui lui permettra de se débarrasser de toutes les casseroles que nous évoquions dans la première partie de l'émission.
C'est une question fondamentale qui, d'ailleurs, nous touche un petit peu indirectement parce que cette controverse est au cœur du ministère public, de la querelle que nous avons sur le ministère public. Effectivement, aux États-Unis, l'Attorney General, c'est-à-dire le secrétaire à la justice, le ministère de la justice, est nommé par le président en place, le président donc des États-Unis, et il a une autorité entière, absolue, sur ses services. Il n'y a pas aux États-Unis de ministère public, au sens où nous l'entendons en France. Les procureurs sont toujours des agents politiques. Des agents nommés par le pouvoir politique. Ils peuvent même d'ailleurs être élus dans les États. Principe du gouvernement démocratique. Tout doit procéder de l'élection. Donc, les procureurs sont dans la main de l'exécutif. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des efforts pour les en faire sortir, qui a diversement réussi, mais un exemple topique des problèmes que cette confusion des deux fonctions de poursuite avec l'exécutif entraîne, c'est au moment de l'affaire Nixon, au moment de l'affaire du Watergate. À cette époque-là, la raison pour laquelle on a pu s'attaquer à Nixon, c'est pas du tout parce que, c'est faut bien comprendre ça, c'est pas un procureur qui s'est attaqué à Nixon, c'était un juge, le juge Sirica, qui a demandé la communication de documents qui étaient soi-disant confidentiels. Bon, à la suite de ça, les Américains ont créé cette innovation qui a eu une fortune exceptionnelle, le procureur indépendant. D'ailleurs, bon, on va faire un procureur indépendant. Le procureur indépendant, ça les a amenés dans l'affaire Lewinsky.
Dont on peut rappeler, c'était sous la présidence Clinton, oui, une affaire d'harcèlement sexuel.
Enfin, oui, enfin, c'était pas... Enfin, disons qu'il avait eu des faveurs, il avait eu des... Disons qu'il avait demandé à Madame Lewinsky de lui faire quelques compliments que celle-ci avait généreusement prodigués. Et naturellement, les journalistes s'en étaient saisis pour dire « c'est immoral », etc. Et toute l'affaire a commencé là-dessus. Il dit, mais non, ce n'est pas une relation sexuelle, mais si, c'en est une. Enfin bref, je passe. Et c'est à partir de là que ça s'est noué. Quand l'affaire de Trump, là maintenant je reviens à Trump, c'est exactement ce qui s'est passé quand le président Obama était en fin de mandat. Il faut se rappeler bien de cela. Il y a la juge Ginsburg qui est décédée. Il a fallu la remplacer. Le président Obama a désigné immédiatement un juge démocrate, Merrick Garland. Et Merrick Garland devait être normalement auditionné par la commission judiciaire des affaires judiciaires du Sénat. Et puis le Sénat, qui est dominé par Mitch McConnell, un républicain pur et dur, qui a une majorité républicaine, n'a rien voulu entendre. On n'a jamais auditionné Merrick Garland.
Ce qui fait que... Très rapidement, votre lecture, Elisabeth Zeller ?
Ma lecture, c'est que ensuite, quand Trump est arrivé au pouvoir et a fait son nettoyage là, des administrations, et surtout l'affaire du 6 janvier 21, c'est Merrick Garland qui est secrétaire à la justice de Biden et qui donc a lancé les poursuites contre Trump. Vous voyez ? Donc, c'est quand même... Il est dans la main du président. Enfin, ça pose quand même des tas de difficultés, des tas de problèmes. On voit bien là... Il faudrait examiner ça.
Il faudrait une deuxième émission. Avec les Jeux Olympiques, quand on a un petit créneau pour géopolitique, on est très content. Jeux Olympiques et puis le football. Serge Sur, alors bien sûr, l'émission passe à la veille de la Convention républicaine. Parmi les grandes inconnues, c'est évidemment la candidature de Joe Biden. On se souvient tous du premier débat entre Donald Trump et Joe Biden. C'était à la fin du mois de juin dernier. Un président Biden très affaibli. Et puis des voix qui s'élèvent aujourd'hui aux États-Unis pour l'appeler à step aside, c'est-à-dire vraiment se mettre de côté. Serge Sur.
Oui, alors là, on est vraiment sur le fil du rasoir, parce que personne ne peut savoir s'il maintiendra sa candidature ou s'il sera contraint, d'une manière ou d'une autre, à la retirer. Et on spécule déjà sur les personnes qui pourraient le remplacer. La personne qui semble toute désignée, c'est la vice-présidente, Kamala Harris. Mais en même temps, elle suscite pas mal de réserves. Et il est très possible que, dans l'hypothèse où il se retirerait, les délégués à la convention retrouvent leur liberté de vote. Et qu'à ce moment-là, il y a une véritable compétition. Et il y a deux noms qui surnagent. Je laisse de côté Michelle Obama, parce que Michelle Obama, elle est sollicitée, mais en fait, on sait bien qu'elle ne veut pas accepter. Et depuis très longtemps, elle a dit qu'il n'en était pas question. Il y a la gouverneure du Michigan, qui s'appelle Gretchen Whitmer, qui a été réélue comme gouverneure du Michigan, qui a donc une certaine expérience politique, et qui a une vie politique assez agitée, puisqu'elle a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Et donc, ça illustre d'ailleurs la violence de la vie politique américaine. Et puis l'autre, c'est le gouverneur de Californie, qui a également été réélu, qui se nomme Gavin Newsom, qui a 57 ans, et qui a commencé une carrière d'homme d'affaires, alors que Gretchen Whitmer était avocate, et qu'elle a très vite ensuite opté pour une carrière politique. Lui a été homme d'affaires. Il était soutenu par la famille Getty, et donc il a des liens avec les grandes fortunes américaines, les grands hommes d'affaires américains. Mais il est très libéral sur le plan des mœurs. Et notamment, il a été en Californie le promoteur du mariage gay. Il a procédé à beaucoup de mariages gays avant même que ce soit légal et contre la volonté du Parti démocrate. Donc il a été un petit peu Noël Mamère, en quelque sorte, américain sur ce plan. Et finalement, il a eu gain de cause. Il a été victime d'une tentative d'impeachment qui a échoué. Donc lui aussi a une expérience politique affirmée. Et bon, peut-être aucun d'eux ne sera finalement retenu et Biden sera candidat. Mais il est certain que cette candidature présente beaucoup de fragilité, parce que ça n'est pas seulement la question de la convention, ça n'est pas simplement la question de l'élection, c'est la question du mandat pendant 4 ans. Et est-ce qu'il pourra tenir pendant 4 ans? Est-ce que sa santé physique et mentale le lui permettra? Là, il y a tout de même un certain nombre d'interrogations à ce sujet.
On peut juste, je mentionne la couverture toute récente du magazine anglais The Economist, où on voit en couverture un déambulateur et ce commentaire, ce n'est pas une manière de mener un pays.
Mais Roosevelt était en
chaise roulante. Oui, voilà. Mais pour d'autres raisons, il était beaucoup plus jeune.
Oui, mais il est mort avant la fin de son mandat.
Oui.
Il est mort juste après avoir été réélu.
Alors très rapidement, la politique étrangère, on l'a pas évoqué, je vous ai pas oublié Patrick Allard, Donald Trump, mais Joe Biden. S'était engouffré aussi dans la même lignée. C'était politique très, très agressive vis-à-vis de la Chine. On l'a évoqué rapidement. Globalement, Serge Sûr, une politique étrangère américaine aujourd'hui qui est finalement devenue une politique plus réactive qu'active, avec cette difficulté à éteindre les feux en cours et même définir des perspectives claires.
Alors, d'abord, je crois qu'il faut dire que, à la différence de ses deux prédécesseurs, Joe Biden est un vieux routier de la politique internationale. Il a été, depuis un demi-siècle, plongé dans les relations internationales. Il s'y est toujours intéressé. Quand il était au Sénat, c'était un spécialiste de la question. Et c'est un homme qui vient de la guerre froide, en quelque sorte, et qui appartient à ceux qui ont vaincu l'URSS. Mais, en même temps, il n'a pas de vision. Il n'a pas développé une vision des relations internationales. D'ailleurs, personne ne l'a fait depuis le président Bush père, qui, lui, avait une vision des relations internationales et de la reconstruction d'un ordre politique après la chute du mur de Berlin.
Bush père, on était à la fin des années 80, début des années 90.
Voilà, il y a 30 ans. Il n'a pas été réélu. Et à partir de là, les États-Unis sont entrés dans une phase, on pourrait presque dire, de latence. Mais on pourrait dire que le bilan de Joe Biden, il est contrasté. Sa politique étrangère n'est certainement pas le plus mauvais de son bilan. Mais enfin, tout de même, en Afghanistan, il s'est retiré trop vite et d'une façon trop brutale.
Il y a bientôt 3 ans.
Au Moyen-Orient, on voit bien qu'il est incapable de maîtriser la situation, mais il succède à une politique Obama qui a été vécue extrêmement mal au Moyen-Orient et qui a fait perdre aux États-Unis un crédit politique considérable. En Ukraine, il a une politique purement réactive. On ne voit pas qu'il ait des propositions. Il a une politique un petit peu indécise, un petit peu équivoque. Et quant à la Chine, eh bien, il est embarrassé, profondément embarrassé par l'affaire de Taïwan. Tout ça sont des éléments qui sont plutôt négatifs, où on voit qu'il n'arrive pas à maîtriser les grands sujets internationaux. Mais à l'inverse, on peut dire que les États-Unis ont mené une politique de sanctions qui leur bénéficie et dont l'Europe souffre essentiellement. Et ça, ils ont conquis des avantages considérables.
Sanctions vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Iran, notamment.
Alors, ils ont coupé les relations économiques entre la Russie et l'Europe. Mais c'est eux qui en sont les bénéficiaires, notamment sur le plan gazier. Et on voit bien qu'ils en tirent un très grand bénéfice à la charge des pays européens. L'OTAN, ils ont réaffirmé leur suprématie sur l'OTAN. Le dollar est toujours la monnaie internationale de réserve. Et en Asie, ils sont en train de réussir à former une coalition anti-chinoise. Alors, bien sûr, tous ces problèmes sont en cours et aucun n'est résolu, mais on peut dire que c'est un bilan contrasté, mais qui n'est pas négatif.
Bilan contrasté, et l'on dit beaucoup finalement que la puissance américaine aujourd'hui est plutôt une puissance statu quo à la recherche de la stabilité globale. Une affaire à suivre. Merci Serge Sûr. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du dernier numéro de la revue Questions internationales consacrée aux États-Unis sous le titre États-Unis, le ressac de la puissance. Et vous êtes également membre de l'Institut au sein de l'Académie des sciences morales et politiques. Merci aussi à Patrick Allard, économiste spécialiste de l'économie internationale et ancien haut fonctionnaire au ministère de l'économie et au ministère des Affaires étrangères. Et Elisabeth Zoller qui nous a bien éclairé sur des sujets particulièrement compliqués, professeur émérite de l'Université Paris 2 Panthéon Assas. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Vous êtes bien sur RFI, place au Journal Afrique.